Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table, une grande table au musée aujourd'hui. Pourquoi les musées sont-ils indispensables ? L'historien Christophe Pomian a pensé 30 ans les musées. Il y a passé aussi ce temps-là dans les couloirs de cette institution. Il signe aujourd'hui chez Gallimard une histoire des musées, histoire mondiale, un des livres phares de cette rentrée. Mais d'abord, l'exposition star de la rentrée, c'est celle qui vient d'ouvrir ses portes à la Fondation Vuitton et qui réunit plus de 170 œuvres de la photographe américaine Cindy Sherman. Son art de la mise en scène et de la métamorphose, l'autoportrait comme fil rouge. Avec nous pour en parler, Marie-Laure Bernadac et Valérie Belin, tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Je crois que les films sont ma plus grande source d'inspiration. Et la plupart de mes films préférés sont des films d'horreur.
Scary Movie, extrait tout au long de ce portrait du film Nobody's Here But Me de Mark Stokes avec Jamie Lee Curtis et surtout Cindy Sherman, co-commissaire de l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes à la Fondation Vuitton, co-commissaire avec Suzanne Paget et Olivier Michelon. Marie-Laure Bernadac, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. La photographie est un art du regard, ce n'est pas un art de l'objectivisation, dit-elle, auteur de plusieurs séries sur les culturistes, les transsexuels, les mariés, les métisses, les modèles ou encore China Girls. Au corps, elle préfère aujourd'hui les visages. Photographe plasticienne, elle modèle et remodèle. Bonjour Valérie Belin.
Bonjour.
Merci à vous aussi d'être avec nous. Une question sur le masque, sur ce masque qui nous barre le visage et nous occupe aussi en ce moment, Valérie Belin. En quoi ce masque-là, chirurgical, en tissu, diffère-t-il des autres masques sur lesquels vous avez travaillé comme artiste ?
Bah, c'est un masque qui masque vraiment cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il ne révèle pas grand-chose. Et donc il est beaucoup moins intéressant que les masques que l'on peut photographier, et notamment ceux que Cindy Sherman a pu fabriquer avec son visage. C'est un masque dont on aimerait bien se débarrasser.
Ce masque que vous utilisez, que Cindy Sherman utilise aussi dans son œuvre, ce motif du masque, hein, pourrait-on dire presque, Marie-Laure Bernadac, il est essentiel dans l'œuvre de Cindy Sherman. Est-ce que vous diriez que ce jeu de masque est d'abord aussi un jeu de filtre pour elle ?
Oui, quand on dit masque, on pense mascarade. Hein. Bon, parfois son visage, d'ailleurs au début, n'est pas masqué. Hein. Il y a quand même toute une évolution du travail. Après, c'est le maquillage. Et le vrai masque appliqué, on le voit plutôt à la fin, avec la figure du clown, ou avec justement ses prothèses et ses masques, ses mannequins en plastique. Alors bien sûr, c'est une façon à la fois de se montrer, hein, et de se cacher. Le masque, c'est persona, hein, donc en latin, donc on sait bien qui est derrière ce masque. Et elle a joué avec ça depuis le début, avec le travestissement, avec le déguisement. Évidemment, c'est assez curieux qu'on soit en pleine période de masque. Vous avez bien fait de souligner, mais ce ne sont pas du tout les mêmes types de masques, ça c'est sûr.
Si vous deviez définir en une phrase l'œuvre, la particularité, la patte Cindy Sherman, que diriez-vous ?
Pour moi, c'est la dimension carnavalesque qui existe le plus. Bien sûr, il y a tout ce qui est sur la féminité, mais pas uniquement sur l'identité. On a beaucoup parlé de l'identité, du genre, des identités multiples, qui semblent être souvent une caractéristique de l'art de certaines artistes femmes. Dans les années 70, beaucoup d'artistes femmes comme Annette Messager jouaient plusieurs rôles. Les femmes ont de multiples identités. Mais c'est surtout le début, hein, parce qu'après, elle se déguise en clown, elle disparaît de l'image, elle se déguise en tableau, donc il n'y a pas uniquement la féminité et l'identité. Se travestit en homme dans les dernières séries. Mais pour moi, la dimension essentielle, c'est le carnavalesque. Et en même temps, je dirais, ça c'est lié à l'interview qu'elle vient de faire où elle dit qu'elle est plus intéressée par Duchamp que par Andy Warhol. Et en pensant à Duchamp, on se dit qu'il y a une sorte de machine célibataire chez elle. C'est qu'elle fait tout toute seule. Elle s'expose. Il y a quelque chose de très intime, hein, de se, sans les dire, à la fois se montrer, se cacher, se mettre dans des positions terribles. Elle fait tout toute seule, ça on le sait, dans l'atelier, le maquillage, les perruques, etc. Donc c'est un exercice très intime de se regarder dans le miroir. Quelque chose qu'on fait jeune, l'effet du miroir, on a tous été fascinés par cet effet du miroir. Et avec cette chose très simple, elle arrive à en faire un art à l'infini. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une multitude. Il y a la multiplicité des identités, il y a la multiplicité des photos. Comme vous le savez, il n'y a pas de titre sur les photos, hein, elles sont juste numérotées. Donc c'est « je me compte » de 1 à 500, 600, on a l'impression que c'est quelque chose qui est sans fin. Donc voilà, quand je parle de la dimension carnavalesque, je la mets aussi en relation avec Paul McCarthy, avec Michael Hay, des artistes américains qu'elle aime beaucoup, qui sont très critiques sur la société américaine, parce qu'il y a évidemment un regard ironique, cruel, critique sur une sorte de portrait de la société américaine. Et la figure du clown, bien sûr, nous invite à avoir cette dimension du grotesque, du mettre le monde à l'envers, de transgresser les règles.
Le travestissement, se travestir, c'est moins se cacher que révéler quelque chose de soi. Valérie Belin, vous avez aussi beaucoup travaillé sur ces notions-là, cette question de la vérité dans ou au sujet de la photo, la question du visage, de cet espace, ce qu'il offre, sa singularité, ce qu'il dit de nous aussi en termes d'identité. Juste, vous évoquiez à l'instant le miroir. Quel miroir elle vous tend, Cindy Sherman, à vous, Valérie Belin?
Je trouve que Cindy Sherman, elle me tend le miroir d'une quête qui pourrait être une quête que l'on mène toutes les deux, qui est la quête du beau, en fait. Parce que je trouve que dans toutes ces séries que Cindy Sherman a faites depuis le début de sa carrière, on sent qu'elle recherche, ou en tous les cas qu'elle évoque le beau. Et il y a ce phénomène très étrange dans son travail qu'elle le décale vers le laid, mais c'est jamais laid en même temps, hein. C'est très subtil son travail. Il y a comme une espèce comme ça de défiguration du beau. Pourquoi? Parce que on voit quand on regarde un tirage de Cindy Sherman, surtout dans les derniers, enfin à partir des années 2000, on pourrait dire ça, on voit la matérialité de la fabrication de l'image, c'est-à-dire qu'on voit le maquillage de manière extrêmement précise. On voit comment c'est fait, et donc on voit le faux, on voit la parodie qui apparaît à travers cette fabrication de l'image. C'est quelqu'un qui est fasciné par l'image avant même d'être fasciné par le masque ou le stéréotype. Je pense que c'est quelqu'un qui est fasciné par l'image.
La question du bizarre, cet art du décalage dans la représentation, on écoute Cindy Sherman.
When I'm looking for things for photographs,
quand je cherche des trucs pour mes photos, ce n'est pas une recherche au jour le jour ou même projet après projet. Je ne cherche pas des choses pendant que je prends les photos. En fait, je garde les yeux ouverts à tout ce qui peut potentiellement être bizarre. Je suis toujours anxieuse à l'idée de me moquer de l'aspect sérieux de l'imagerie et que ce ne soit pas lu comme quelque chose de vraiment terrifiant. Je ne veux pas que les gens se disent « Oh mon Dieu, elle montre vraiment des cadavres ». Je ne m'intéresse pas à ce type de choc. Ce qui m'intéresse, c'est le choc qui découle de l'association de l'artificialité et de ce qu'elle représente.
Cette question de l'association, elle dit le choc aussi, hein, de ce qui peut en découler. C'est un jeu d'association, d'articulation aussi, ce qu'elle produit dans son travail. Hein.
Vous voulez dire en passant d'une série à l'autre?
Non, ça c'est plutôt sur la question du format des séries, d'ailleurs, ouais. Qui est intéressant, la déclinaison, ce que ça permet. Elle parle de cette idée d'articuler, d'associer au sein même d'une œuvre c'est une part d'artificiel, de faux, avec ce qu'elle représente réellement.
Oui, ou,
enfin, en tout
sûr.
Cas, moi je l'entends.
C'est en effet tout à fait un jeu sur le faux et le vrai, et on le voit bien, d'où l'effet miroirique qu'on a fait dans la muséographie, hein, qui renvoie aussi à qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Et j'étais étonnée ce que Valérie dit sur le beau, parce qu'en même temps, sur l'image, je suis archi d'accord, hein, il y a une fascination sur l'image depuis le début, qui est au départ l'image du cinéma, qui est une sorte d'image fantôme. Et là, le détail de maquillage, le détail de la photo. Mais en même temps, elle-même dit que la beauté ne l'intéresse pas du tout, hein, que la laideur, ou alors ça revient au même, la laideur est une sorte de beauté qu'elle cherche. Elle dit la beauté dans la nature, je trouve que la laideur est beaucoup plus importante. Donc en effet, il y a cette fabrication, on le voit bien dans la série des mannequins, hein, je crois, des mannequins qui sont des prothèses, en fait, qui sont des prothèses médicales avec lesquelles elle recrée des scènes érotiques et quasiment pornographiques, mais il se trouve que ce sont des mannequins. On le voit aussi dans la série des contes de fées, qui sont justement l'horreur, le grotesque, où elle se déguise en truie, où c'est vraiment terrifiant. Et peut-être la série qui est pour moi la plus troublante, c'est celle où elle disparaît quasiment de l'image et on arrive à une image informe avec genre de vomi, du dégueulis, des détritus, enfin des matières organiques. Elle disparaît dans la terre et on ne voit plus que son reflet. Donc là aussi, il y a quand même une construction très très intéressante par rapport à l'image. Elle disparaît, mais le reflet est dans la lunette.
Oui, mais je pense que quand je repense à ce que disait à l'instant dans l'interview de Cindy Sherman, en effet, je trouve qu'il y a une espèce de double focus dans son travail, c'est-à-dire que c'est elle, et c'est un peu comme dans un film où on voit un acteur jouant un rôle, on sait qu'il joue un rôle, mais on sait que c'est lui aussi. Et donc il y a cette rencontre, effectivement, entre sa réalité en tant qu'actrice, Cindy Sherman, et le personnage qu'elle incarne, d'ailleurs à la perfection, c'est-à-dire qu'il y a une acuité de son regard par rapport à les modèles qu'elle épingle qui est absolument époustouflant. C'est-à-dire que c'est quasiment hyper réaliste pour moi comme travail. À la fois dans la facture de la photographie et à la fois dans cet effet de loupe grossissante qu'elle fait sur des détails du personnage, du décor. Alors ça peut être l'attitude, le maquillage, un détail incongru comme ça qui provoque ce déplacement. Et pour moi, c'est là que se joue la rencontre entre le réel et l'artificiel.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On croit qu'ils sont plus vrais que nature. On a l'impression, on croit reconnaître des gens. Et en même temps, chaque fois, on voit un détail qui montre bien que tout est faux. Donc, on est toujours pris entre cette présence réelle, enfin, quasi réelle de ces personnages, on y croit. Et en même temps, c'est qu'ils sont entièrement fabriqués.
Et c'est choisi, c'est volontaire de montrer ce détail qui nous montre qu'elle joue, en fait, aussi. Hein. Elle grossit beaucoup le trait. Et en grossissant le trait, en nous montrant qu'elle a triché, qu'elle a truqué, qu'elle a mis en scène, elle nous rend aussi complices de ça. Et elle cherche à montrer, dit-elle, on va l'écouter, des zones d'ombre, nos propres zones d'ombre, une certaine vérité.
Avec une photographie, vous pouvez faire croire n'importe quoi aux gens. Donc ce n'est pas vraiment l'appareil qui fait quelque chose, mais la personne qui est derrière la caméra et qui trouve des manières de dire des mensonges grâce à l'appareil photo. Il y en a qui l'utilisent de manière littérale et documentent exactement ce qu'ils voient. Mais moi, je pense qu'il est plus intéressant de montrer ce que peut-être on ne verra jamais. Il s'agit de montrer ce qu'il y a dans l'imagination de quelqu'un.
Voilà, elle entre dans nos têtes. Vous dites que c'est aussi Marie-Laure Bernadac, un travail qu'elle fait d'elle avec elle-même. Mais il y a aussi cette capacité à réveiller, à interroger le spectateur, le regardeur, cet effet miroir qu'on évoquait avec Valérie Belin. Quelle place elle lui donne au spectateur dans son œuvre? Quelle liberté d'interprétation?
Ah ben alors, elle pense que c'est vraiment comme Duchamp, regardeur qui fait le tableau. Elle pense que tout peut être interprété par elle-même, même pas trop donné d'interprétation. Quand je lui ai posé la question sur un de ses couples, dans les dernières œuvres, on voit un homme et une femme, on ne sait pas si c'est un frère ou une sœur, il se trouve que la femme aussi a une moustache. Alors je lui dis, est-ce que c'est homme, femme? Elle dit, mais c'est ce que vous voulez, c'est à vous de reconnaître telle ou telle personne. Et on voit bien dans la réaction déjà des visiteurs, il y a des visiteurs qui sont un peu terrifiés par ces personnages, qui trouvent ça horrible, terrifiant, toutes ces vieilles dames, toutes ces mannequins terribles. Bon, moi je suis assez habituée, donc ça me fait plutôt rire, sourire. Mais on voit qu'il y a des réactions très très différentes. À la fois, bon, soit on voit le travail extraordinaire et l'intelligence de la démarche. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. On est tout de suite pris par toutes ces photos. Donc elle laisse vraiment chaque interprétation aux visiteurs et aux regardeurs. Elle n'aime même pas trop la théorie. Hein. Elle est en effet très pointue, très juste, très méticuleuse sur son travail. On le voit bien, c'est un travail énorme. Pour chaque photo, il y a un travail de recherche pour arriver à la perfection. Elle est très perfectionniste. Mais en même temps, elle dit que la théorie, c'est pas pour elle. Et Dieu sait s'il y a eu de théorie sur son travail.
Dans beaucoup, elle dit d'ailleurs qu'elle y va beaucoup à l'intuition, hein, c'est ça aussi qui est intéressant, et qu'en fait ça l'amuse presque de voir toutes ces grandes théories qu'on construit à partir de ces petits riens et de ces indices qu'elle a pu glisser, qu'elle-même parfois, souvent, elle ne sait pas où elle va. Alors est-ce que d'ailleurs, elle joue encore un peu avec nous quand elle dit ça? Est-ce que vous pensez qu'au fond c'est quand même une artiste, une femme qui est assez décidée sur le chemin artistique et créatif qu'elle veut mener?
Je pense que c'est vraiment quelqu'un très intuitif.
Elle cherche pas à nous perdre. Dans cette série qu'on peut voir dans le très beau catalogue qui réunit une grande partie des œuvres et notamment présentée à la Fondation Vuitton de Cindy Sherman, dans cette série de portraits historiques, elle joue aussi, Cindy Sherman, Valérie Belin, avec ce brouillage des frontières entre la photographie et la peinture. Dans vos Painted Ladies qu'on avait pu voir à Arles, aux rencontres de la photographie aussi, vous interrogiez le statut de ces deux médiums artistiques, hein, cette frontière qui est finalement assez floue entre le réel que la photographie transmet et la peinture que l'on peut faire sur nos visages. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous, Cindy Sherman, à la photographie, à cet art-là, à ce média-là?
Je pense que Cindy Sherman, enfin, en tous les cas, je parle en mon nom, évidemment. Pour moi, être un peintre ou un photographe, c'est exactement le même métier. Et quand on regarde le travail de Cindy Sherman, je pense que ça saute aux yeux. Parce que elle a une espèce d'artisanat dans son, il y a une dimension artisanale dans son travail. Parce que elle a une telle attention, encore une fois, au choix qu'elle fait, des accessoires, tout ce qui va faire l'image. Et en plus, il y a cette dimension d'abstraction, une recherche d'abstraction dans son travail. C'est-à-dire que c'est, effectivement, comme elle le dit, c'est pas un travail qui documente quoi que ce soit, c'est une recherche d'abstraction dans la photographie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la série contribue aussi à ça. Donc pour moi, c'est, comment vous dire, elle est issue, effectivement, des suites de l'art conceptuel, mais l'art conceptuel utilisait la photographie en tant qu'enregistrement ou vérification d'une théorie, alors que elle, son objet, c'est l'image, donc c'est la peinture. Donc, pour moi, Cindy Sherman est une peintre, au même titre que quand j'ai fait les Painted Ladies. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre peindre une toile vierge, qui était donc ces visages de jeune fille, et ce que fait Cindy Sherman en peignant son visage, en le maquillant, en le transformant, pour atteindre effectivement des zones qui sont de l'ordre peut-être de l'évocation, du souvenir, de l'émotion en tous les cas. Ouais.
La photographie, la peinture, sur ce mélange des frontières, Marie-Laure Bernadac.
Oui, ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 70. Beaucoup de femmes se sont emparées de la photographie. Parce que d'une certaine façon, c'était un art moins noble que la peinture. Elle-même, dans ses premières études d'art, avait fait de la peinture qu'elle a très vite abandonnée en pensant que la photographie, c'était un médium plus facile. Et ça me rappelle une exposition qui avait lieu il y a longtemps à l'art, qu'ils se disent peintres, qu'ils se disent photographes, et qui était le début de tout un mode de photographie qui n'était pas de la belle photographie au sens argentique comme les photographes, qui était plutôt une photographie d'artiste. Et donc c'était un médium comme un autre qu'on pouvait utiliser. Et bien sûr, dans ses compositions, le choix des couleurs, de l'éclairage et du maquillage. Hein. De toute façon, le maquillage, c'est une forme de peinture sur une sculpture de chair, on peut dire. Donc il y a ce rapport à la peinture.
Merci. On va couper les portables, il y en a un quelque part qui a sonné, même si ça fait une jolie petite musique. On va en passer une autre, labellisée cette fois. On écoute tout de suite la femme.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Ma tête est en pleurs sur le pavé. Pendant la nuit, les
Cette énigme qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir et de pleurer. Eux aussi brouillent les pistes, les garçons de la femme, avec ce nouveau titre paradigme, prémisse d'un nouvel album encore non daté. En se travestissant sans cesse, Cindy Sherman s'est construite une identité de la métamorphose. Voilà ce que dit l'écrivain Marie Dariosek, invitée à contribuer au catalogue de la Fondation Louis Vuitton qui expose Cindy Sherman jusqu'à début janvier. C'est la grande exposition de rentrée à voir donc à la Fondation Louis Vuitton à Boulogne, près de Paris. Son œuvre met en scène des femmes, ou plutôt la femme encore, hein, femme fatale, grande bourgeoise, femme d'affaires ou femme au foyer. Vous avez titré votre contribution, Marie-Laure Bernadac, dans le catalogue « La féminité mascarade ». Pourquoi ? Quel est son propre rapport à elle, à la féminité ?
En fait, c'est un titre que j'ai emprunté à une psychanalyste très importante qui s'appelle John Rivière, qui a intitulé un texte « Féminité mascarade » et qui est repris après par Lacan. Parce que pour elle, entre féminité et mascarade, elle dit qu'il n'y a pas de différence. Dès qu'on parle de féminité, on est dans une mascarade. C'est-à-dire c'est une construction d'archétypes, de déguisement, de paraître. Et que justement, on affiche un paraître, peut-être, bon, on dirait plus aujourd'hui, par un manque, par le manque d'avoir. Donc c'est du paraître, c'est du faux-semblant. Et c'est aussi une façon, dans cette extrême féminité, de cacher sans doute une partie masculine et de déjouer le regard masculin. Donc ça, c'est la théorie de John Rivière. Donc, je pense pas que Cindy Sherman soit entièrement là-dedans, mais je trouvais ça intéressant de voir aussi comment on peut se cacher. Bon, on sait aussi, pour moi, c'est quelque chose d'assez féminin, parce que les femmes ont souvent revendiqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, des identités multiples. Mmh. On pense à se trouver de Pirandello, on pense... La femme aux mille visages, c'est quelque chose qui caractérise cette multiplicité d'identité qui est souvent une caractéristique féminine. Donc je voulais partir de cette association entre féminité et mascarade. Mais encore une fois, ce n'est peut-être que le démarrage de la démarche de Cindy Sherman. Ce par quoi elle a commencé. Elle dit que petite, elle aimait se déguiser, que tout d'un coup, par hasard, en sortant de son école d'art à Buffalo, elle aimait se déguiser en secrétaire et qu'on lui a dit « mais tu peux en faire un travail ». Donc c'est venu assez naturellement, mais c'est venu aussi comme un souvenir d'enfance, comme cette volonté d'être un autre, hein, de « je veux être un autre », d'être toutes les personnes possibles. Et elle dit bien « ce ne sont pas des autoportraits, hein, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du personnage de fiction que j'invente ». En même temps, à travers la multiplicité de ses portraits, c'est toujours elle. Donc, d'une certaine façon, il y a cette ambiguïté de se montrer, de se disparaître en même temps.
C'est toujours elle, mais avec un jeu en mouvement, parce qu'elle devient assez insaisissable aussi. Hein. Donc, qui est ce elle, qui est ce jeu, c'est sa propre...
Ouais. Non, elle le dit bien que sa vraie personne est très, très différente. Quand on la connaît, on est même frappé de voir à quel point c'est quelqu'un de très simple, très, très gentil, qui vit à la campagne, qui n'est pas du tout une grande vedette star, alors qu'elle l'est, qui est vraiment... travail, enfin, qui est à la fois aussi très solitaire. puisqu'elle fait ce travail toute seule. Donc il y a un vrai décalage entre ce qu'elle est vraiment et le travail qu'elle montre.
Mmh. Alors, c'est intéressant parce que vous avez été commissaire de l'exposition il y a longtemps, hein, féminin-masculin, sur le sexe de l'art. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur des grandes artistes, le travail de grandes artistes féminines, femmes comme Louise Bourgeois ou comme Annette Messager. On entend des conceptions assez différentes aussi de l'art ou de leur rapport à la féminité à travers leur art. Valérie Belin, pour vous, les œuvres de Cindy Sherman n'ont pas de sexe. C'est pas un travail, une création féminine.
Alors ça, c'est une question qui pour moi est toujours compliquée parce que je me la pose pas moi-même, cette question de savoir la dimension féminine d'un travail. Ce que je sens dans son travail, c'est qu'elle est bien au-delà de la question d'un art féministe en tous les cas ou féminin. Elle est au même titre que d'autres artistes dans une recherche d'un archétype qui serait celui de la beauté et qui a d'ailleurs beaucoup de mal à trouver sa forme aujourd'hui. Et pour moi, avant tout, elle témoigne de ça à travers justement ce travail de défiguration dont je parlais. C'est ça qui ressort pour moi, c'est-à-dire que quelle est la place du beau aujourd'hui dans l'art contemporain, et ça, que ce soit un homme ou une femme qui le mette en œuvre. Pour moi, il ne s'agit pas du tout d'un travail féministe. Il se trouve qu'elle incarne des personnages féminins parce qu'elle est une femme, et encore aujourd'hui, elle déplace ses limites en faisant aussi des portraits d'hommes. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe aussi, c'est parité, enfin c'est... Elles ont tendance à s'écrouler elles-mêmes, c'est-à-dire il n'y a plus vraiment ces différences entre les hommes et les femmes, principalement, voilà, dans, je pense à la vie sexuelle des jeunes gens d'aujourd'hui, qui est bien différente de celle qu'on a pu vivre nous-mêmes, ou en tous les cas, il y a toutes ces barrières qui sont en train de tomber. Et je pense que le travail aussi de Cindy Sherman témoigne de ça.
Témoigne ou contribue à les faire tomber d'une certaine manière.
Aussi, bien sûr. Oui.
Ouais. Ce refus des assignations, cette quête de l'artiste Cindy Sherman, on peut retrouver à travers plus de 150 œuvres d'elle exposées en ce moment à la Fondation Louis Vuitton, son travail, et puis aussi cet effet échange, dialogue qu'elle a voulu créer avec d'autres artistes à voir à la Fondation Louis Vuitton. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous pour évoquer cette grande exposition de rentrée à Paris, Marie-Laure Bernadac et Valérie Belin. Je rappelle donc un catalogue paru chez Azan accompagne l'exposition. Merci beaucoup.